Attention, vous êtes arrivés dans les monts de demain. Une chronique du parc naturel régional pour parler d'urgence écologique et climatique, mais aussi, surtout, de transition. Pour imaginer ensemble les monts de demain.
Je m'appelle Simon Parco, j'ai 28 ans et je suis écrivain montagnard avant tout, mais aussi, j'aime bien dire colporteur de pensée ou métaphysicien au pied ampoulé écorné. Je fais des cours de philo, des initiations à la philo en marchant, en déambulant. J'ai appelé ça les balades philo.
Simon Parco était en Ardèche le 15 octobre dernier à l'occasion de la castagnade de Saint-André-Lachant. Au cours d'une balade philosophique, Simon Parco entraînait son auditoire dans une randonnée philo à la recherche du sauvage.
Et aujourd'hui, donc à l'occasion de ces castagnades, je vous propose une petite réflexion sur le concept de sauvage. J'ai intitulé cette randonnée, cette balade plutôt, à la recherche du sauvage, et je pense que l'enjeu premier, c'est essayer déjà de comprendre, comme on fait d'habitude lorsqu'on commence à faire de la philosophie, de comprendre ce que le mot sauvage veut dire. Par sauvage, vous entendez quoi? Comment vous le définirez, ce terme?
Ce qui n'est pas influencé par l'homme.
Ce qui n'est pas influencé par l'homme. Concrètement, je prépare une balade philosophique comme un cours, avec le plus d'humour possible, évidemment. C'est un cours que je fais en marchant, en déambulant, avec des personnes à chaque fois très différentes, d'âges différents, aussi de milieux différents. Et donc c'est un cours que je décompose en 3 heures, le temps d'une balade. Donc on part marcher et on fait des pauses toutes les 10 minutes. Et à chaque pause, c'est l'occasion de rentrer un peu plus profondément dans le sujet qui est traité, notamment par la présentation d'un auteur ou d'une autrice qui nous aide à réfléchir sur un sujet. Ça fonctionne comme ça, une balade philosophique, c'est une marche libre, entrecoupée de plusieurs temps statiques. Alors si je vous parle d'Aristote aujourd'hui, parce que figurez-vous que c'est l'un des premiers philosophes grecs à s'être intéressé à ce qu'il appelle lui-même la nature. C'est un des premiers à s'être intéressé à avoir pensé la nature.
Alors là, sur cette question du sauvage,
oui.
Du sujet du sauvage, de quoi tu as parlé? Qu'est-ce que tu as abordé au travers de quel personnage?
Alors je vais essayer de vous la faire de manière synthétique. L'idée de cette balade, c'était pas de partir d'une problématique, d'un problème philosophique, tu vois, une question, et puis on y répond avec une thèse, une antithèse, une synthèse. L'idée, c'était juste déjà ensemble de réfléchir sur ce qu'on appelait, sur ce qu'on désignait derrière ce mot sauvage. C'était quoi, ce qui se cachait derrière cette étiquette, derrière ce mot, derrière ce concept. Une fois qu'on a fait ce premier temps de définition collective, après j'ai amené la pensée d'auteurs qui chacun ont eu leur idée sur ont eu différentes idées sur le sauvage. Et ces auteurs, c'est les suivants, c'est Aristote, c'est Jean-Jacques Rousseau, c'est Henri David Thoreau, un philosophe américain. C'est aussi Michel de Montaigne, Freud, et enfin Philippe Descola. Et puis j'ai terminé avec Andreas Weber et Hildegard Kurt. Alors, t'as vu, c'est des penseurs, des penseuses très différents, qui ont évolué dans des périodes de l'histoire aussi très différentes, qui ont donc des approches sur le sauvage différentes. Et si tu veux, on a fonctionné comme ça pendant cette balade philosophique, c'était plusieurs approches, plusieurs lectures, plusieurs clés d'entrée, plusieurs interprétations de ce mot et pensées en lien avec ce mot qui venaient de différentes périodes de l'histoire. Pour avoir à la fin de la balade un aperçu un peu général de ce mot, de ce qu'il aussi cache, mais aussi, je tiens à le dire, pour répondre à certains problèmes qu'il nous a posés. Aujourd'hui, en l'occurrence, c'était: existe-t-il une nature sauvage? Faut-il revenir à la nature sauvage? Et il y avait une question annexe aussi, celui qu'on appelle le sauvage en tant que barbare. Est-ce que le barbare existe-t-il vraiment? Et qu'est-ce qu'on on tente de dire lorsqu'on qualifie un humain de barbare? Donc voilà, on a abordé toutes ces questions pendant ces 3 heures d'intervention.
Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu les différentes approches de ces philosophes? C'est possible, en la faisant courte.
Je vais essayer de la faire courte. En fait, j'ai commencé cette balade avec Aristote, parce que c'est à partir d'Aristote et des Grecs, donc Platon, Socrate, évidemment avant Platon, ont une première définition du concept de nature et qui vont opposer ce concept de nature à la culture. évidemment en disant que l'homme est un animal comme les autres, mais qu'il se distingue en fait de la nature par le biais de sa conscience, en fait, de sa raison, en quelque sorte. Donc on est parti de là pour opérer une distinction entre la nature sauvage et l'humain, hein, et ça nous a permis aussi cette définition, cette première définition, de parler aussi du barbare, parce que chez les Grecs, le barbare, c'est aussi celui qui vit en dehors de la cité grecque, qui est supposée être, si tu veux, la cité des hommes véritables. Alors le barbare, c'était celui qui était en dehors de la cité, celui qui vivait dans la forêt ou dans une autre culture, une autre cité, et qui donc se rapprochait un peu plus des bêtes que des véritables êtres humains désignés par les Grecs. Hein. Donc ça, tu vois, Aristote, ça nous a permis de vraiment commencer cette balade philo sur des bases un peu solides. Et après, on allait chercher chez Jean-Jacques Rousseau et Henri-David Thoreau, et qui tous les deux sont dans un fantasme, une glorification, j'ai envie de dire, de la nature sauvage, et qui tous les deux veulent retourner à la nature sauvage. Et ensuite, on a fait un contrepoint, tu vois, ce qu'on appelle une antithèse en philosophie, ça s'appelle un contre-pied dans le monde du football. Ça s'appelle remettre en question, en fait, ce qu'on a dit précédemment, critiquer un peu cette idée de retour au sauvage qu'on a vu avec Jean-Jacques Rousseau et Henri-David Thoreau. Et là, j'ai choisi un certain Freud, hein, le psychanalyste Sigmund Freud, qui nous disait qu'il ne fallait pas revenir au sauvage, parce que revenir au sauvage, c'était revenir à un état de guerre de tous contre tous, et qu'il fallait la loi, il fallait la culture pour nous prévenir de cette explosion de la violence et des pulsions. Voilà donc Freud, et puis à la suite de Freud, ensuite on a essayé de déconstruire l'idée du barbare, hein, avec Michel de Montaigne, qui dit qu'on appelle barbare celui qui se comporte à chaque fois différemment de nous, et que c'est finalement une des choses les mieux partagées par l'humanité que de se qualifier celui qui est différent de sauvage ou de barbare, de bête en quelque sorte. Enfin, on a cherché, c'était la conclusion de cette balade, à remettre en question cette fois-ci l'idée même de nature sauvage, hein. Et ça, je suis allé chercher du côté de l'anthropologie de la nature un certain Philippe Descola, qui nous raconte que dans certains collectifs animistes, donc des collectifs amérindiens, les Achuar, l'idée de nature n'existe pas, l'idée de nature sauvage n'existe pas, parce que tout est culture, tu vois. Et c'était une manière pour moi de dire que finalement la nature sauvage n'existe pas, que c'est une sorte de une catégorie de pensée propre à notre culture, hein, à ce qu'on appelle le naturalisme, donc notre culture occidentale et notre perception de la nature, et que la nature n'existe pas, notamment parce que selon un point de vue animiste à la Descola, tout pourrait être que culture finalement autour de nous sommes en dialogue, rien n'est extérieur à nous en fait, nous sommes nous humains, faisons partie de la nature et nous sommes en dialogue avec une multitude d'êtres qui composent ce monde. Et puis de dire aussi qu'en temps d'anthropocène, l'idée de nature sauvage ne peut plus exister parce que le réchauffement climatique a des impacts sur tous les recoins, même les plus inexplorés, de la planète. Donc c'était à la fin, l'idée c'était de déconstruire vraiment ce concept de sauvage. Et le dernier geste que j'ai fait, où je suis allé cette fois-ci chez des penseurs, penseuses allemands, et qui réhabilite en fait, si tu veux, une pensée du sauvage, mais en disant que s'ensauvager au 21e siècle, ce n'est plus traverser en solitaire des déserts qui sont des décors, hein, tu vois, c'est un peu la perception romantique de la nature du 18e siècle. Se réensauvager au 21e siècle, c'est se relier avec la multitude d'êtres vivants qui nous entourent. Et c'est un acte plein d'humanité, et loin d'être un acte de barbarie comme on a pu le voir précédemment. Voilà, donc t'as vu, c'est assez dense, hein, on a énormément de penseurs, de penseuses qui nous donnent des interprétations, des lectures, des clés de lecture sur ce concept.
Pourquoi tu as fait, toi, cette conférence sur le sauvage ? Comment ça t'est venu, cette idée, cette envie ?
Si je me souviens bien, c'est venu il y a 2 ans de cela, 2 ou 3 ans, c'est une balade, hein, que j'ai créée, un cours que j'ai créé en fait, donc un spectacle aussi que j'ai créé il y a 3 ans. Et ben, ça vient de lecture. Déjà, Philippe Descola par exemple, Henri-David Thoreau. Et puis ça vient aussi du fait que je vis à côté du parc national des Écrins, et que je pense qu'une une des fonctions des balades philo, c'est de remettre en question les perceptions. Enfin, une des fonctions de la philosophie, déjà, c'est de remettre en question, si tu veux, les certitudes qu'on a. Et appliquer dans une zone rurale ou un territoire rural, comme là où je vis, dans le parc des Écrins ou comme ici, eh ben, ça consistait à remettre en question, si tu veux, nos perceptions de la nature. La perception des touristes, ceux qui viennent profiter d'une certaine image, profiter, parfois consommer une certaine image de la nature, mais la perception aussi des locaux, la perception des gardiens de la nature, des gardes forestiers. L'idée, c'était un peu de déconstruire avec cette balade nos perceptions et nos certitudes sur ce qu'on appelle nature, et donc de faire de la philosophie, en fait.
Et dans un contexte de réchauffement climatique, d'urgence écologique qu'on vit en ce moment, pour toi, c'est important, ça ? Et pourquoi ?
C'est important, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est déjà de protester de manière, je pense, assez directe face à cette aux acteurs et aux responsables de cette urgence. Mais c'est important, notamment, alors la littérature et la philosophie sont importantes parce que ça aide à changer, tu vois, nos perceptions, en fait, de la nature. Et changer ta perception de la nature, c'est déjà changer ton comportement vis-à-vis d'elle, et c'est déjà faire un embryon d'action vis-à-vis de, enfin, de réaction face à ce réchauffement. Donc moi, c'est un peu mon idée, tu vois, c'est grâce à surtout la littérature, j'ai envie de dire, mais aussi à la philosophie, changer de perception, et changer de perception de la nature, ça aide à aussi changer de sensation vis-à-vis d'elle. Pour la faire claire, la faire simple, ne plus la voir comme un objet, mais peut-être comme un sujet vis-à-vis duquel on a pas mal de responsabilités en ce moment.
Une randonnée philosophique pour repenser notre rapport à la nature. C'était Simon Parco, invité du Parc naturel régional des Monts d'Ardèche à l'occasion des Monts de demain. Une série de rencontres, de projections, de films, de spectacles pour s'informer, se mobiliser et imaginer ensemble les solutions pour les Monts de demain. Notez les deux prochains rendez-vous sur vos agendas. La rencontre avec Louisa Jones autour de son dernier ouvrage, Le Jardin ensauvagé. Ce sera le dimanche 12 novembre à 14h30 à Johannas. Les jardins peuvent être un maillon essentiel de notre reconnexion au vivant. Louisa Jones nous donnera des pistes historiques, philosophiques et pratiques pour y contribuer. Puis le samedi 2 décembre à 16h au théâtre de Privas, spectacle et rencontre avec François Sarano. François Sarano est océanographe, plongeur, ancien chef d'expédition du commandant Cousteau. Ce rendez-vous s'articulera autour du spectacle Le Retour de Moby Dick par la compagnie Nadine Estève, un spectacle librement inspiré du livre de François Sarano, Le Retour de Moby Dick ou Ce que les cachalots nous enseignent sur les océans et les hommes. On plongera donc dans l'océan avec les musiciens et la voix d'un conteur pour ce spectacle. Ce sera suivi d'une rencontre avec François Sarano qui nous embarquera avec lui à la découverte des océans et nous racontera notamment ses nombreuses plongées en compagnie des requins et des cachalots. Pour plus d'infos sur ces rendez-vous et sur les réservations, c'est sur le site du parc naturel régional des Monts d'Ardèche.
C'était votre chronique, Les Monts de demain.